en sol majeur.
Yasmine Chouaki accueille chaque jour des personnalités de double culture et joue la partition du métissage.
Demain,
celui qui a fui le ghetto de Varsovie est devenu Marek Alter, un raconteur d'histoire à la barbe biblique.
Vendredi,
Clyde Wright, soliste du Golden Gate Quartet et parrain du gospel européen, qui a choisi de s'installer sur le vieux continent.
En sol majeur, du lundi au vendredi, à partir de 10h10 et 14h10 TU.
RFI. Cinéma d'aujourd'hui, cinéma sans frontières.
À l'occasion du Festival international du film d'Afrique et des îles, la ville du Port, dans l'île de la Réunion, accueille les plus grands noms du cinéma. Cette année, hommage à Raoul Peck, à Claire Denis, au cinéma mozambicain et au film de l'océan Indien. Focus sur le festival.
Cinéma d'aujourd'hui, cinéma sans frontières.
Catherine Ruel.
Dimanche, à partir de 14h10 TU.
RFI.
Le débat du jour, Jean-François Cadet.
Les réseaux sociaux sur le net constituent-ils une aide ou un problème pour la vie sociale? Nous ouvrons le débat à l'occasion de la sortie du film de David Fincher, The Social Network, aujourd'hui sur les écrans français. Le long métrage retrace la saga de la création du site internet Facebook, sans doute le plus connu des réseaux sociaux. Mais ce terme de réseau social, justement, est-il réellement adapté? Peut-on parler de véritable socialisation au sein du monde virtuel? On en parle ce soir avec nos trois invités. Jean-Charles Naïebi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychologue clinicien, spécialiste de la cyberdépendance, auteur de La cyberdépendance en 60 questions chez Retz Éditions et de notre livre intitulé Enfants et adolescents face au numérique et sous-titré Comment les protéger et les éduquer, paru cette fois chez Odile Jacob. Également avec nous Antonio Cassilli, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Vous êtes sociologue, chercheur au centre Edgar Morin, auteur d'un livre intitulé Les liaisons numériques vers une nouvelle sociabilité, avec un point d'interrogation
très important,
dans la collection La couleur des idées aux éditions du Seuil. Et puis Louis-Serge Réal-Delsart, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes consultant, fondateur de la société Easy Network. Vous avez publié Les réseaux sociaux sur Internet aux éditions Alphée. Alors, pour vous, Facebook, Twitter et leurs cousins sont une aide ou un problème pour la vie sociale?
C'est une avancée numérique, c'est une aide, c'est une explosion de la connaissance. C'est phénoménal, sauf qu'il faut en comprendre l'éthique, apprendre la prudence et fixer des règles d'échange.
Jean-Charles Naïebi, c'est phénoménal, c'est une avancée. Écoutez, il suffit de bien savoir les utiliser.
Je pense qu'il s'agit d'outils. Et il s'agit donc d'usage qu'on fait d'outils. Je donne toujours l'exemple d'une pelle. On peut s'en servir pour construire comme on peut s'en servir pour démolir. Cependant, la nature même de mon métier m'amène à avoir plus à faire avec des problèmes créés par ces réseaux qu'effectivement des avantages qui en sont tirés ici ou là.
Alors, Antonio Cassilli, vous avez une vision très partagée. Vous dites en gros, ça dépend.
Il y a des opportunités, voilà. Il y a des risques, oui. Mais sur cela on peut être d'accord. Surtout, j'insiste sur le fait que l'objet technique ou le rapport à la technique cache souvent le rapport social et donc qu'il ne faut pas oublier que quand on parle de réseaux sociaux et dangers ou d'opportunités qui sont liées aux réseaux sociaux, c'est surtout des dangers et des opportunités liées aux relations humaines et aux interactions humaines.
Alors justement, un réseau social sur le net, est-ce que c'est générateur d'une véritable socialisation?
Il est réconfigurateur, si on peut employer ce terme un peu complexe, c'est-à-dire qu'il nous aide à repenser notre sociabilité au quotidien, mais il est toujours lié à notre sociabilité au jour le jour.
Louis-Serge Réal-Delsart, est-ce que réellement un ami sur Facebook, puisque c'est le mot qui est employé sur le site, c'est le mot consacré, est-ce qu'un ami sur Facebook est un ami? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est une connaissance? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît vaguement? Quelle est cette socialisation générée par les nouveaux réseaux sociaux?
Je pense que c'est une excellente question. C'est toujours assez gênant de dire qu'on a pas mal d'amis et qu'on ne peut pas les générer des contacts, puisqu'on dit que la règle de Dunbar précise qu'on pourrait pas être au-delà de 150 contacts. Aujourd'hui, on voit bien que ces règles ancestrales volent en éclats. Je reprenais ce que disaient nos invités. On est en fait sur les réseaux ce que l'on est dans la vie, donc on n'a pas plus d'amis sur les réseaux qu'on en a dans la vie, sauf que on a un effet par la linguistique qui fait que demain, on pourra même parler avec des Chinois sur des réseaux par des traducteurs automatiques. On peut générer un nombre de contacts hallucinant avec des recherches par mots-clés qui permettent finalement d'avoir une base de données beaucoup plus importante. Je dirais le mot contact serait mieux et plus approprié.
Donc, dans le mot contact, il y a aussi la notion de sociabilité. Nous sommes bien d'accord.
Absolument, et c'est vrai que on me dit souvent cyber-optimiste, parce que je trouve que c'est quand même une révolution culturelle d'accès à la connaissance. Même si j'en souligne tous les dangers, il est évident qu'aujourd'hui, ça permet d'avoir des relations avec des personnes de tous les pays du monde et de tous bords, de toute culture, de toute religion qu'on n'avait pas précédemment.
Oui, Jean-Charles Naïebi, vous êtes plutôt cyber-pessimiste ?
On peut dire ça, ça sera en tout cas la première fois, mais pourquoi pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comme je précisais tout à l'heure, je traite plutôt des problèmes qu'il y a avec ces réseaux sociaux, et à l'intérieur de ça, l'image que j'en ai, très probablement, est une image différente, une représentation différente de ce qu'un autre qui travaille avec, qui est technophile, peut en avoir.
Mais alors justement, parlez-nous de votre propre expérience. Est-ce qu'il y a réellement le risque d'une dépendance à Twitter ou à Facebook ? C'est pas un jeu vidéo.
Le risque de la dépendance est un risque réel. Ces entités cliniques ont été partout dans le monde signalées, discutées dans le corps professionnel. Au jour d'aujourd'hui, le fait que certaines se perdent dans les addictions comportementales n'est plus un mystère. Maintenant,
Parce qu'en même temps, quand on lit votre livre, il y a un test à la fin. Franchement, pour pas être cyber dépendant ou pour pas être cyber addict ou pour pas, quand on fait le test, quasiment tout le monde. J'ai fait le test dans la rédaction des RFI, quasiment tout le monde a un problème.
Je ne pense pas, dans la mesure où les journalistes...
À partir d'une réponse sur 10 à votre test, vous considérez qu'il y a un problème ?
Absolument pas, vous n'avez pas bien lu.
Ah si.
Écoutez, c'est sous vos yeux, sortez.
Non, je ne l'ai pas, je l'ai pas amené, là, vous voyez.
À partir de 3, ce n'est pas à partir de 1. Maintenant, je fais une différence, vous avez vu qu'il y avait des échelles entre l'usage excessif, l'usage dépendant... et l'usage abusif de l'Internet. Il y a des échelles qui sont différentes. Et ces mêmes tests viennent d'être testés à une grande échelle à l'Académie de Lyon par la médecine de l'éducation nationale. Et la pertinence de sa formulation et également ses résultats ont été signalés. Mais il y a des échelles. Un usage excessif n'est pas pareil qu'un usage abusif ou un usage dépendant. Tout le monde n'est pas dépendant.
Oui. Cependant, usage excessif, ce n'est pas très positif, vous êtes d'accord ?
C'est une réalité, oui. Et je pense que c'est une réalité qu'on a du mal à intégrer lorsque des heures entières de la vie... Parce que, vous savez, l'image, c'est que c'est quelqu'un qui socialise sur Internet, tout va bien et tout. Rarement, on va venir parler d'une mère qui pourrait délaisser ses enfants ou d'un mari qui se sentirait abandonné du fait de l'activité sur le net de sa femme ou quoi que ce soit. Donc, si vous voulez, dans cet ordre-là, je maintiens qu'effectivement, il y a un risque réel de dépendance. Et concernant ce questionnaire que vous citez là, je vous invite, et c'est un livre qui existe maintenant depuis 3 ans, de vérifier qu'en définitive, il y a des échelles, et ce n'est pas avec une réponse positive qu'on a un problème.
Antonio Cassilli.
La notion de cyberdépendance, si on veut parler de cela, en réalité fait débat à l'intérieur même de la communauté scientifique. L'année dernière, la revue Cyber Psychology and Behavior avait publié une métasynthèse de 10 ans d'études, et au fait on a remarqué que les outils diagnostiques ne sont pas les mêmes partout dans le monde, que le diagnostic fait problème, et qu'en réalité, et ça c'est la position que je défends dans mon livre Les liaisons numériques, on a toujours un problème quand on dit d'être dépendant d'une technologie, dans la mesure où, si je passe 18 heures sur Internet, est-ce que je suis en train de dialoguer avec une machine ou de rentrer dans un monde fictif? En réalité, je suis en train d'échanger avec des personnes que je croise au quotidien. Alors encore une fois...
Donc c'est une nouvelle forme de socialisation.
Non, j'insisterai sur un autre élément. Au fait, il y a, si vous voulez, une banalisation de ces usages informatiques. Aujourd'hui, être branché à Internet, être connecté à Internet, est banal comme être connecté au courant électrique. Alors bien sûr, il y a des dangers dans le courant électrique si je mets les doigts dans la prise électrique, mais en même temps, on ne peut pas dire d'être addict à l'électricité.
Louis-Serge Réal-Dessart, est-ce que cette comparaison vous agrée ?
Oui, tout à fait. Simplement, moi, j'ai un avis qui est plutôt un message aux parents. On cherche un équilibre pour éviter l'addiction, les troubles du sommeil dont tout le monde parle. En fait, il faut savoir quand même que Facebook est interdit au moins de 13 ans, mais tout le monde y est, tous les jeunes de 11 et 12 ans. Ils n'ont pas le même filtre devant le net. Et en fait, la solution, elle est toute simple. C'est, je le dis aux parents, attribuer un compte utilisateur limité avec des horloges numériques possibles pour qu'ils puissent se remettre au travail.
Oui, alors ça, j'imagine, vous ne pouvez être que d'accord.
Bien sûr, bien sûr.
Mais est-ce que réellement, il y a une différence différence entre les enfants et les parents, parce qu'il y a des parents qui sont aussi addictifs que leurs enfants, voire plus, non ?
Oui, et au fait, ça constitue un profil plus à risque. Donc, souvent, lorsqu'on me demande des conseils, je commence avec le premier conseil. Ça consiste à dire, ne donnez pas le mauvais exemple à vos enfants, parce que le nombre de foyers dans lesquels où chacun est accroché à son écran, et le temps familial disparaît, le temps de repas disparaît, au profit et sur l'autel de l'activité numérique. Ça ne veut pas dire que l'activité numérique est à bannir. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de notions de partage essentielles quant à l'équilibre de la famille qui ne doit pas disparaître au profit de l'activité numérique.
Mais Serge Valdessart, y a-t-il une éducation à Facebook, à Twitter ?
Absolument. L'éducation, c'est déjà de savoir comment sortir de Facebook, puisque si vous voulez embaucher quelqu'un, demandez-lui de contacter Google avant la fin de cette nuit ou Facebook. Et là, je vous promets que vous n'aurez pas de résultat. La parenté à l'ère du numérique, ça signifie la socialisation, mais avec un défaut. C'est qu'aujourd'hui, on a une technique qui devient super puissante. Par exemple, j'ai noté pour vous le danger du géotagging, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui la possibilité, avec des textes, des photos et des vidéos contenant des données de géolocalisation, d'utiliser cela à des fins criminelles. L'enfant, lui, n'a pas ce filtre et ne le sait pas. Le parent, lui, il le comprenne et ne met pas tout en ligne.
Antonio Cassilli.
J'aimerais compléter cette réflexion en disant que s'il y a un apprentissage à faire, c'est un apprentissage qu'on va faire au niveau social. C'est-à-dire toute la société maintenant est en train aujourd'hui d'apprendre à se servir de ces nouveaux outils. Alors, c'est vrai que il est très important de se concentrer sur les usagers les plus à risque, comme justement les jeunes, les adolescents. Mais la réalité est que désormais, il y a 2 milliards d'usagers en ligne et forcément, la population d'Internet reproduit les mêmes régularités statistiques. Donc, à mon avis, les nouveaux d'Internet sont surtout les personnes âgées. Et ces personnes âgées sont en train d'apprendre autant que les enfants.
J'ai une info qui est intéressante pour vous, qui est méconnue. L'Allemagne vient d'inscrire dans un de ses Land l'éducation numérique dans l'un de ses cours. Voilà. Donc ça, c'est une belle...
Donc c'est pour ça que moi, je fais le pari de la pédagogie. Je pense qu'il faut commencer à bien apprendre aux enfants comment il y a une différence entre ce qui se voit sur l'écran et la réalité, très tôt. Je fais le pari d'une bonne initiation au numérique. Je pense que c'est gage de meilleure réussite en termes d'usage ou de mes usages, malheureusement, autour de ça. Et c'est pour ça que j'ai commis ce livre-là qui est basé sur l'éducation numérique. Je pense que s'ils sont tous malades, personne ne va pouvoir soigner. Il vaut mieux commencer à jouer la carte de la prévention au lieu de jouer seulement la carte du thérapeute.
Antonio Cassilli, vous parlez dans votre livre de reconfiguration de l'ordre social à travers les réseaux sociaux. Ça veut dire que les réseaux sociaux ont un impact sur la vie réelle aujourd'hui ?
Ont un impact sur la vie réelle.
Dans les entreprises en particulier ?
Ouais, dans les entreprises, mais aussi auprès des usagers. Dans mon livre, je m'efforce de montrer que partout dans le monde, justement, on parlait de la Chine, donc justement, j'ai fait des enquêtes de terrain en Chine, au Brésil, aux États-Unis et bien sûr en Europe, et on remarque que les usages sont fort différents. Si on parle bien sûr de entreprise, on parle de population active, donc on parle surtout de la pénétration d'Internet en Occident. Mais si on regarde des pays émergents comme la Chine, comme l'Inde, là on se rend compte effectivement que l'impact est énorme et dépasse amplement l'usage sur le lieu de travail. Les millions d'usagers chinois qui sont des retraités et qui sont en train de rentrer aujourd'hui sur Internet représentent effectivement un terrain d'enquête qui est formidable.
Sur la vie d'entreprise, Louis-Serge Aldersart, j'imagine que là aussi, c'est un secteur que vous suivez de près.
Absolument.
Est-ce que les relations sociales ont réellement changé depuis l'introduction des réseaux sociaux sur le net ?
Oui, on pourrait dire que c'est une sorte de grande machine à café mondiale qui permet de rester à son bureau et de voyager en restant assis.
Je voulais juste préciser. Très important dans une entreprise, la machine à café. C'est vraiment là que se noue une grande part des relations sociales.
Pour rebondir sur ce que disait notre invité, la prévention doit se faire, à mon avis, par les parents, parce que je crois que entre 6 et 8 ans, l'enfant commence à faire seulement la distinction entre la fiction et la réalité. Donc, il ne sait pas ce qui se passe. Donc, si on éduque les parents, on pourra éduquer les enfants. Mais si vous dites aux parents, aux enfants de pas mettre l'ordinateur dans la pièce commune, il va pas le répéter ses parents.
Oui, Jean-Charles Nayebi, est-ce qu'il faut aussi introduire une sorte de pédagogie au travail, précisément ? Parce que certains patrons voient les réseaux sociaux d'un œil plus que dubitatif, voire soupçonneux. Il faut faire attention, on ne peut pas écrire n'importe quoi et on peut avoir de mauvaises surprises.
Écoutez, ce qui est sûr, c'est que le monde du travail se cherche autour de cette question-là, autour des questions d'usage et mes usages, de même que nous avons cherché à avoir des assises et des repères sur les 15 dernières années du fait de manque de recul. Maintenant, il y a l'importation du traitement des réseaux sociaux depuis notamment le pays des anglo-saxons qui ne corrobore pas tout à fait avec la culture méditerranéenne que nous avons ici.
Donc, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est une façon d'amener la culture anglo-saxonne dans les autres pays du monde.
Incontestablement, et la langue anglaise, incontestablement. Donc, si vous voulez, ça rencontre une sorte de choc culturel, petit choc, mais choc quand même, et ça crée des problèmes, notamment auprès de la médecine du travail, des problèmes d'arrêt de travail, ainsi de suite.
Je vais Facebook, cheval de Troie de la culture anglo-américaine,
Facebook, Antonio Cassilli. Facebook en particulier, oui. Mais en même temps, il y a d'autres réseaux sociaux qui sont beaucoup plus puissants que Facebook dans d'autres parties du monde. Je pense
par exemple,
à Orkut au Brésil, et bah, il y a effectivement des dizaines de millions de Brésiliens, et QQ en Chine. Mmh. Et c'est des réseaux qui ne doivent pas être oubliés et qui sont des concurrents très très forts.
Et qui demain pourraient devenir des concurrents au niveau mondial de Facebook.
Orkut, à un certain moment, a eu la possibilité d'avoir un très fort impact en Inde, mais pour l'instant, Facebook a emporté la mise.
Justement, le côté quasi monopolistique de Facebook qui est traité dans le film de Fincher, est-ce que ça vous fait pas peur quand même,
Louis-Saint-Gerald? Ce qui me fait peur, c'est qu'on va enfin savoir la vérité, c'est qu'il a emprunté son idée, il a pillé cette idée à Harvard, il a écarté Eduardo Saverin qui était fondateur avec lui, qui l'avait financé, et on va enfin connaître les méfaits de Facebook. Quand vous cliquez, tout lui appartient, et c'est vrai, c'est ce que vous signez quand vous entrez sur Facebook.
Merci beaucoup à tous les trois. Je rappelle les références de vos ouvrages respectifs. Antonio Cassilli, Les liaisons numériques vers une nouvelle sociabilité, avec un point d'interrogation, je le redis, parce que vous avez raison, dans la collection La couleur des idées, c'est aux éditions du Seuil. Merci beaucoup. Merci également à vous, Jean-Charles Nayebi. La cyberdépendance en 60 questions, c'est chez Retz Éditions. Enfants et adolescents face au numérique chez Odile Jacob. Et merci également à notre troisième invité, Louis-Serge Réal del Sarthe, consultant fondateur de la société Easy Network, les réseaux sociaux sur Internet, cette aux éditions Alphée. Et je précise que vous pouvez aussi aller sur les différentes pages Facebook consacrées aux émissions des RFI, tant qu'à faire, c'est tout bénéfice. Merci à tous les trois, à tout de suite l'actualité.
Bonsoir.